C'est toujours un plaisir d'être là, de vous retrouver les uns les autres. Et je vous invite à lire deux textes. Le premier dans Matthieu, au chapitre 22, les versets 34 à 40. Alors, on va citer l'Ancien Testament, ce sera un peu dans le prolongement de la présidence. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Le deuxième texte se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, au chapitre 12, à partir de la dernière phrase du chapitre 12 et les huit premiers versets du chapitre 13. Je vais vous montrer le chemin qui surpasse tous les autres. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Il est bon de temps en temps, pour nous, croyants, de nous recentrer de façon explicite et intentionnelle sur l'essentiel. Et l'essentiel dans la vie du croyant, dans la manière d'être que le Christ nous demande, c'est d'aimer. L'essentiel, parce qu'il y a un essentiel dans la Bible. Car même si nous croyons fermement que toute écriture est parole de Dieu inspirée, cela ne veut pas dire que tout dans la Bible a la même importance. Vous êtes d'accord avec ça? Tout dans la Bible n'a pas la même importance, il y a des choses plus importantes que d'autres. Il y a des enseignements dans l'écriture qui sont plus importants que d'autres, et il faut en avoir pleinement conscience. Il y a un cœur de la parole qu'il nous faut connaître, car c'est à partir de ce cœur de la parole que nous comprenons tout le reste et que nous construisons nos vies de disciples. Et se mettre d'accord sur ce qu'est le cœur de la parole ne va pas forcément de soi. Puisqu'on est aux 500 ans de la Réforme cette année, prenons un exemple classique sur le sujet. Pour Martin Luther, le cœur de la Bible se trouve dans l'enseignement de l'apôtre Paul sur le salut gratuit en Jésus-Christ. Un salut qui ne se reçoit que par la foi, sans que nous puissions faire quoi que ce soit pour le mériter. Pour Luther, c'était l'évangile dans l'évangile, comme on dit. Et à cause de cela, il n'accordait qu'une importance seconde aux actes et aux paroles de Jésus racontées par les évangiles. Et dans l'évangile, seul comptait la mort de Jésus à notre place et sa résurrection. L'important pour l'être humain était de se tourner vers Dieu, de croire en la mort de Jésus pour nos péchés et d'accueillir ce salut pour soi. C'est cela, être chrétien. C'est ça le cœur de l'évangile pour Luther. Pour les premiers anabaptistes non violents, les ancêtres des Mennonites, le cœur de la Bible était Jésus tel que les quatre évangiles nous le présentent. Et si la foi en Jésus et en sa mort pour nos péchés est centrale, ce n'était pas tout. Jésus n'était pas seulement le sauveur, mais aussi le maître qui appelle ceux qui croient en lui à devenir ses disciples et à vivre selon sa parole. Sans une vie de disciple, selon l'enseignement de Jésus, notamment dans le sermon sur la montagne, la vie chrétienne était gravement incomplète. Luther n'était pas d'accord avec cette compréhension, car il estimait qu'en insistant trop sur la vie de disciple, on risquait de revenir à un salut par les œuvres, par le mérite humain. Tout ça pour dire que ce que nous comprenons comme étant le plus important dans la Bible oriente notre manière de comprendre tout le texte biblique et notre style de vie. C'est pourquoi il nous faut être clair sur ce sujet, chacun d'entre nous, mais aussi en tant que communauté. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous, dans ma compréhension de la foi, dans ma manière de vivre l'Évangile? L'essentiel dans la manière de vivre, l'essentiel de ce que le Nouveau Testament nous demande en tant que chrétiens est souligné à plusieurs reprises dans les Évangiles et les Épîtres. Et les évangiles et les épîtres désignent tous la même chose, à savoir l'amour. L'amour de Dieu et du prochain, les deux étant absolument indissociables, inséparables. Dans les évangiles, ceci est souligné dans tous les textes où il est question du plus grand commandement. Le texte que nous avons lu, le premier texte que nous avons lu. Cette question de l'essentiel, du plus important, travailler la tradition rabbinique à l'époque de Jésus et déjà avant. Et elle faisait l'objet d'intenses débats. Et il n'est pas étonnant qu'on ait posé à Jésus cette question classique: quel est le plus grand commandement de la loi? Nous avons lu ensemble la réponse de Jésus: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. La version de Marc ajoute le fait d'aimer Dieu aussi de toute sa force. J'ai lu que la question est posée dans un autre contexte et amène la parabole dite du bon samaritain. Et Jésus s'appuie sur l'Ancien Testament. On cite forcément l'Ancien Testament, le verset le plus important pour lui, ou le commandement le plus important pour lui. Et je voudrais faire trois remarques sur la réponse de Jésus. Quand nous pensons au commandement de l'Ancien Testament, à quoi pense-t-on d'abord? Qu'est-ce qui est le plus important dans l'Ancien Testament? À quoi on pense d'abord? En général, on pense aux 10 commandements. C'est ce qui spontanément sort. Il y a des raisons à ça, mais entre autres, c'est parce que nous étudions les 10 commandements dans les catéchismes protestants et évangéliques. Dans le protestantisme, qu'il soit luthérien, réformé ou autre, les catéchismes historiques sont construits autour de la confession de foi et de deux textes bibliques, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament, qu'il fallait apprendre par cœur. Pour l'Ancien Testament, c'était les 10 commandements, pour le Nouveau Testament, c'était le Notre Père. C'était le Notre Père. Si on transmet l'idée que les 10 commandements sont la partie la plus importante de l'Ancien Testament, eh bien on oriente la compréhension de l'Ancien Testament d'une certaine manière. Surtout que ces 10 commandements sont présentés sous forme d'interdits: tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ce sont des textes miroirs qui nous interrogent sur nous-mêmes, sur notre attitude Et c'est bien qu'il y ait des textes comme ça. C'est important. Les 10 commandements nous interpellent directement parce qu'ils nous disent que nous sommes des êtres de mensonge, des êtres tentés par la convoitise, etc., etc. Ils brossent un portrait en creux de l'être humain et essayent de barrer les mauvais chemins. Mais le commandement d'aimer Dieu et d'aimer le prochain a une toute autre envergure. Il ouvre un horizon très large et inclut toute existence. C'est un texte fenêtre qui nous invite à nous décentrer de nous-mêmes pour nous ouvrir à l'autre, et pas seulement en évitant de lui faire du mal. Deuxième remarque. Le grand commandement est celui qui nous permet de comprendre et de situer tous les autres commandements de la loi et tous les enseignements des prophètes. C'est ce que Jésus dit. La loi et les prophètes, dans le texte de Matthieu que nous avons lu, désignent les deux parties les plus importantes de l'Ancien Testament pour le judaïsme. La loi, c'est les cinq premiers livres, de Genèse à Deutéronome. Et les livres prophétiques sont plus larges que ce que nous avons dans nos listes à nous. Josué, Juges, les livres de Samuel et les livres des rois font partie des prophètes. Parce que les juges sont aussi des prophètes, et parce que dans Samuel, les rois, les héros sont des prophètes, en fait, hein, plus que les rois. Le commandement d'aimer Dieu et son prochain éclaire de façon décisive tous les autres, car il souligne que c'est l'amour qui doit être le moteur de notre comportement et rien d'autre. En réponse à l'amour que Dieu a manifesté en libérant son peuple d'Égypte, en envoyant son fils Jésus et tous les autres exemples d'amour qu'on peut trouver dans l'Écriture. Ce commandement d'aimer Dieu et notre prochain nous préserve de l'égalisme. Il nous préserve aussi de la confusion entre craindre Dieu et avoir peur de Dieu. Il est une clé de lecture, sinon la clé de lecture et d'interprétation de tout l'Ancien Testament, d'après la parole même de Jésus. Troisième remarque, l'amour auquel nous sommes appelés, que ce soit l'amour de Dieu ou celui du prochain, mobilise tout notre être. Nos sentiments, mais aussi notre volonté, notre intelligence, notre créativité, notre sensibilité, notre énergie, etc., etc. Notre commandement donne une définition globale de l'amour. Pas seulement un amour fait de sentiments, pas seulement un amour intellectuel ou un amour sensible, mais tout ça à la fois et bien d'autres choses encore. Il n'est pas nécessaire de vouloir définir avec précision chacun de ces mots, ils sont collés ensemble dans le texte pour donner un effet de masse. C'est la manière hébraïque d'énoncer la totalité. L'amour que Dieu veut que nous ayons pour lui et pour notre prochain mobilise tout notre être. L'amour de Dieu et du prochain, comme l'essentiel de la foi et de la vie chrétienne, est souligné dans les trois premiers évangiles à partir de la question « Quel est le plus grand commandement ?» et dans le quatrième évangile, c'est « Dit comment ?» Vous êtes des lecteurs de la Bible, donc je vous pose la question. Comment dit-on ça dans le quatrième commandement ? Comment décrit-on la supériorité de l'amour sur tout le reste ?
Dieu est amour.
Oui, mais pas ça que je pensais, mais Dieu est amour, c'est vrai. Comment c'est dit dans Jean que l'amour est plus important ? Eh bien, Jésus dit que le commandement d'aimer, ce n'est pas le plus grand commandement, mais c'est le commandement. Voici mon commandement. Le commandement qui caractérise le disciple de Jésus. Le commandement qui prouve, le commandement, si on le vit, qui prouve qu'on est bien disciple de Jésus. C'est d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est déjà pas forcément très simple d'aimer les autres comme nous-mêmes, mais s'il faut en plus les aimer comme Jésus nous a aimés, là ça devient beaucoup plus difficile, d'une certaine manière. L'apôtre Paul, celui qu'on va voir maintenant, affirme la primauté de l'amour à plusieurs reprises dans les Épîtres. À plusieurs reprises. Par exemple, Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Galates 5, 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Colossiens 3, 14. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Voilà, on retrouve encore d'autres sans doute. Mais c'est évidemment en 1 Corinthiens 13 que l'apôtre est le plus clair, le plus radical, et on pourrait même dire le plus brutal, sur la nécessité de l'amour. L'amour, sinon rien, on pourrait résumer ce que dit l'apôtre Paul comme ça. Le chapitre 13 se situe dans un contexte polémique, parce que Paul, dans 1 Corinthiens, lutte contre une importance exagérée donnée par les Corinthiens, par certains Corinthiens aux manifestations de l'esprit, par d'autres Corinthiens à la connaissance intellectuelle, etc., etc. Au chapitre 12, Paul situe l'action de l'esprit dans le cadre de la vie communautaire de l'Église. Il subordonne l'action de l'esprit à l'objectif fondamental de Dieu qui est de construire son Église et que les personnes grandissent et évoluent en se construisant dans leur foi. Et il conclut cet enseignement par la première phrase qu'on a lue, « Je vais vous montrer le chemin qui surpasse tous les autres. » Et il embraye le chapitre 15. Les trois premiers versets que nous avons lus, je vais vous les relire, parce qu'ils introduisent le sujet. « Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si j'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne, ou une cymbale qui retentit. » Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Ces trois versets qui commencent 1 Corinthiens 13 font plus qu'affirmer la supériorité de l'amour. Ils frappent de nullité tout type de spiritualité qui ferait l'économie de l'amour. Pour le dire autrement, s'il n'y a pas d'amour, tout ce qu'on fait est multiplié par zéro. C'est pas agréable à entendre, mais c'est ce qu'il écrit. On peut être des super prophètes et parler en langue pendant des heures, on peut être très intelligent et avoir une science, la science de tous les mystères, toute la connaissance, on peut être centré sur la justice sociale avec la distribution de tous ses biens, etc., etc. S'il n'y a pas d'amour, cela ne me sert de rien, dit l'apôtre Paul. Et après il dit, non seulement ça ne me sert à rien, mais je ne suis rien. Je ne suis rien. On peut être choqué par la radicalité de l'apôtre. Comment on peut comprendre ce double rien ? Je ne suis rien, ça ne me sert à rien. Je propose de le relier, ce double rien, à l'objectif central qui traverse les chapitres 12 et 14 de 1 Corinthiens, à savoir l'édification. Vivre l'amour que Dieu demande, même si c'est évidemment de façon imparfaite, cela nous construit. Et cela donne du sens à mon cheminement spirituel. Cela donne sens à ma relation avec Dieu, avec mes frères et sœurs, et plus largement avec mon prochain. Aimer, travailler à surmonter le côté égocentrique qui nous habite les uns et les autres, surmonter nos craintes de l'autre, dépasser des caractéristiques de notre caractère qui peut-être nous rendent compliqués dans nos relations. Tout ce travail-là est un travail qui a du sens et qui nous construit. Qui nous construit. Qui nous change en profondeur. Et ça, c'est des choses qui vont rester. Il y a quelques années, et c'est pas Christian Bagnier qui me contredira, est apparue une publicité pour un apéritif à base d'anis qui disait « Un Ricard, sinon ?»«
Rien. »«
Sinon rien. »« Un Ricard, sinon rien. » Un homme politique, maintenant décédé, ou plutôt ses supporters ont utilisé ce slogan pour dire « Rocard sinon rien », pour ceux qui se rappellent de ça. On pourrait détourner nous aussi cette publicité pour résumer le message de l'apôtre Paul « Aime Dieu et ton prochain, sinon rien ». Sinon rien. En 1 Corinthiens 13, on passe du langage de la supériorité, du plus grand commandement, à celui de la seule réalité nécessaire et constructive, sans laquelle on n'est rien. Paul utilise ce langage volontairement pour secouer ses lecteurs, et j'espère que ça nous secoue un peu aujourd'hui aussi, pour leur faire prendre conscience de l'importance de l'enjeu. L'importance de l'enjeu. Quelle est notre vision de ce qu'est la foi et de ce qu'est la vie chrétienne? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Aimer plus et mieux? Est-ce pour nous un objectif essentiel? M'ouvrir aux autres dans et hors l'Église? Surmonter mes craintes et mes réticences? Mes préjugés? Et autant que cela m'est possible, construire des liens positifs? Sortir de l'isolement parfois confortable dans lequel peut-être je suis bien, dans lequel je me suis mis parce que je suis bien. Élargir le petit cercle de relations dans lequel je suis à l'aise. Rencontrer ceux dont la différence peut m'embêter. Me laisser déranger par l'imprévu comme le bon samaritain. Est-ce que c'est important ou pas pour moi? Nous vivons ce message est important, ces paroles de l'apôtre et de Jésus sont importantes, parce qu'aujourd'hui nous vivons un temps où on se replie. On entend des discours de repli sur soi. On entend des discours de fermeture. On entend des discours de méfiance. Ou c'est juste moi qui les entends ? Comment l'évangile de l'amour du prochain nous rencontre dans ce contexte-là? Aujourd'hui, on essaie de nous faire peur des autres, peur des étrangers, des différents, peur de ceux qui ne pensent pas comme nous. Comment, dans ce contexte, ces paroles de l'évangile nous percutent? C'est une question qui, pour moi, est plus actuelle que jamais. Avant, on avait des discours où on rêvait un peu sur le fait qu'on pouvait s'entendre assez facilement les uns les autres. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus compliqué et on est dans des discours plus sur le repli, sur la méfiance, etc. Comment faisons-nous avec ces paroles de l'Écriture? Je voudrais conclure. On pourrait penser, le lecteur moderne en tout cas pourrait penser que Paul est lourd avec sa morale, et Jésus aussi. Mais je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas tellement de morale au sens étroit du terme, mais plutôt, pour utiliser un gros mot, d'anthropologie. Nous avons été créés pour aimer Dieu. Voilà la réalité. Voici notre réalité humaine la plus profonde. Nous avons été créés pour aimer Dieu et pour nous aimer les uns les autres, pour construire des liens profonds, pour collaborer à des projets. Des projets que Dieu a pour nous et pour notre communauté. C'est dans notre ADN d'être humain, et ça l'est encore plus dans notre ADN spirituel, que cela nous plaise ou pas. Ou pas. Pour Paul, pour Jésus, aimer Dieu et son prochain, ça constitue la dimension essentielle d'une vie spirituelle réussie et d'une vie réussie tout court. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Amen.